au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Les Anglais débarquent en Normandie. Rien à voir avec une commémoration des événements de la dernière guerre. L'invasion est pacifique et elle concerne le domaine de l'immobilier. En effet, la dernière mode chez nos voisins britanniques est de s'acheter une maison en France, par exemple en Dordogne. Le phénomène n'est pas récent, seulement il commence à s'amplifier depuis la construction du tunnel sous la Manche.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Parmi les Britanniques que le Brexit bouscule, chagrine, angoisse, figurent en grand nombre tous ceux qui ont choisi de vivre en France pour tout ou partie de leur existence. Les multiples reportages que l'on peut lire à ce sujet sont explicites. Ces exilés volontaires se sentent spontanément en opposition à cette majorité de leurs compatriotes qui a décidé de rompre les amarres avec l'Union européenne. On se rappelle ce fameux titre d'un quotidien londonien, « Brouillard sur la Manche, le continent est isolé ». La plaisanterie risque de prendre les couleurs de l'amertume pour ceux des Anglais. Ils sont des centaines de milliers qui ont choisi de vivre chez nous et qui éprouvent le risque d'une solitude par rapport à leurs compatriotes, tout en redoutant de perdre une fraction des avantages et du confort juridique dont ils jouissaient tant que leur patrie appartenait à l'Union. Il va nous revenir de les rasséréner. Et un des moyens de le faire est peut-être de restituer le long terme pluriséculaire de leur présence en France. Ils y furent parfois moqués, rarement rejetés, le plus souvent accueillis avec un mélange de curiosité et d'incertitude sur leur être profond. Diana Cooper-Richet, qui est chercheure au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, s'est attachée à ce beau sujet pour un livre qui va paraître tout prochainement. Par quoi le goût m'est venu de l'inviter ce matin. Et nous allons commencer avec Petula Clark dans une chanson où elle évoque son installation en France et les protestations d'un ancêtre mythique, un fantôme écossais qui s'appelle Mortimer, mais qui, vous allez le voir, finalement la rejoindra.
Mon ancêtre Mortimer, Mortimer Peabody, qui a fait 100 ans de guerre du côté anglais, est un fantôme féroce qui ne me pardonne pas d'avoir choisi pour mes noces un mari François. Et Mortimer, toutes les nuits, en colère me crie: que fais-tu là, Petula? What do you do there? Que fais-tu là, Petula? Loin de l'Angleterre. Que fais-tu là, Petula? I don't understand. Que fais-tu là, Petula? Come back to England. Remember Piccadilly and Christmas pudding. Remember Tipperary, return to the Queen. Whoa, 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 whoa. Que fais-tu là, Petula, chez nos ennemis? Je suis mort à Fontenoy. Tu nous as trahis. Mon ancêtre Mortimer, Mortimer Peabody, a perdu une autre guerre contre les Français. Il s'est si bien habitué au ciel de Paris qu'il ne peut plus le quitter, même pour une nuit. Quand je vais à Londres aujourd'hui, Mortimer me crie: que fais-tu là, Petula? moi, es-tu là, aux folies bergères? Que fais-tu là, es-tu là, si loin de Paris? Les Parisiennes, es-tu là, very good for me? Leurs fantômes sont si jolis, moi je veux rentrer. C'est très extraordinaire, ce fantôme anglais qui a fini par se faire naturaliser.
Diana Cooper Richet, bonjour.
Bonjour.
Cette chanson de Petula Clark remonte à 1965 sur des paroles du très grand parolier que fut Pierre Delanoë. Petula Clark est aujourd'hui octogénaire. Je suis heureux de lui rendre cet hommage car elle ramasse bien dans cette chanson vieille de plus d'un demi-siècle. Elle ramasse assez bien les tentations pour les Anglais d'être présents et de prendre leur distance. Mortimer, le fameux ancêtre qui est mort à Fontenoy, finit par avoir envie de revenir aux Champs-Élysées et de retrouver toutes les nuits les Parisiennes, les Folies Bergères, n'est-ce pas ?
Oui. Mais ça, c'est assez typique de l'attitude des Anglais par rapport à la France, ou d'ailleurs des Français par rapport à l'Angleterre, c'est-à-dire une méfiance au départ, et ensuite on s'habitue, et on s'aime, et on s'adapte, et on s'adopte.
J'aimerais assez que ce soit le climat général que nous donnions à cette émission, qui va évidemment mêler constamment les réalités et les représentations, les faits et les stéréotypes. Oui. Dieu sait qu'il y a un domaine où les clichés foisonnent.
Ils ont la vie dure, finalement, les clichés. Et on en trouve encore la trace aujourd'hui.
L'ancêtre Mortimer finit par demander sa naturalisation dans la chanson.
Oui, il finit par demander sa naturalisation dans la chanson, comme beaucoup d'Anglais l'ont fait récemment. Les chiffres les plus récents, pour 2016, il y a eu 1363 demandes de naturalisation. En 2017, 3173. Et 1518 Anglais ont obtenu la naturalisation française.
Nous les accueillons bien.
Voilà.
C'est un effet, bien sûr, tout direct du Brexit.
Oui, parce que beaucoup d'Anglais ont eu envie de rester en France avec les mêmes avantages dont ils bénéficiaient auparavant. Et donc, pour le faire, la naturalisation était la solution la plus simple.
Alors, revenons, comme c'est notre vocation, revenons loin en arrière, Diana Cooper Richet, revenons à la Révolution française. Je pourrais imaginer de chercher plus loin en arrière, mais c'est déjà à bonne distance, la Révolution. Quelles ont été les réactions des Anglais? Quelle a été leur présence chez nous dans ce moment essentiel?
L'attitude des Anglais par rapport à la Révolution, elle est assez mitigée. On a des penseurs comme Edmund Burke, qui est à la fois un philosophe et un homme politique, qui lui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Reflections on the French Revolution » et qui craint essentiellement pour la couronne et également pour la contagion. Il pense que la révolution pourrait contaminer l'Angleterre et donc il est absolument contre.
Cette contamination, les révolutionnaires la souhaitaient, ils croyaient puisqu'ils voulaient penser pour l'universel.
Oui, mais justement c'était une des craintes d'Edmund Burke.
Qui a eu un immense succès.
Ah, il a eu beaucoup de succès, mais à côté de Edmund Burke, il y avait des gens qui étaient très intéressés par la Révolution française en Angleterre, qui ont décidé de venir pour voir ce qui se passait en France pendant cette période. Alors, il y a toutes sortes de gens qui sont venus. Il y a d'abord des dissidents religieux qui ne trouvaient pas tellement leur place en Angleterre auprès de l'Église établie, des presbytériens, des Quakers. Alors, to quake en anglais, ça veut dire trembler devant Dieu, donc ceux qui tremblent devant Dieu.
Ils sont venus trembler en France.
Voilà, ils sont venus trembler en France. Certains sont des intellectuels et des penseurs, mais qui ont une réaction assez vive contre l'Église établie. Donc, il y a ces personnes-là qui viennent. Il y a également un certain nombre de catholiques qui ne trouvent pas forcément leur place en Angleterre. Il y a des radicaux, ce qu'on appelle les radicaux, qui souhaitent qu'il y ait une réforme de l'État en Angleterre et qui pensent que peut-être la Révolution française peut leur apprendre quelque chose.
Ce sont des exilés politiques, dirions-nous aujourd'hui, s'ils sont menacés dans leur foi à l'époque. Le mot est anachronique ?
Oui, je crois que c'est plutôt des gens qui sont curieux. La tolérance est assez grande en Angleterre quand même, mais c'est des gens qui souhaitent voir s'il n'y a pas quelque chose à glaner en France pendant cette période qui est assez agitée. Et puis il y a aussi quelques hommes et femmes de lettres qui viennent à cette époque-là, notamment le poète Wordsworth, et une autre femme qui va rester assez longtemps à Paris, qui s'appelle Maria Helen Williams.
Qui a un salon.
Son salon, c'est un salon qui accueille à la fois des Anglais et des Français, mais aussi, par exemple, des gens de passage à Paris, comme Alexander von Humboldt, qui est un explorateur allemand.
Un des deux frères Humboldt.
Voilà. Et donc, elle reçoit toutes ces personnes-là pendant la période de la Révolution chez elle, pour discuter de tous les problèmes.
Je voudrais que nous fassions un sort à un personnage très attachant, qui est Thomas Paine, qui est élu à la Convention.
Oui.
Ces assemblées révolutionnaires ont accepté des membres qui étaient des étrangers. C'est
oui.
intéressant vu d'aujourd'hui.
C'est très intéressant puisque Paine a été élu dans 7 départements français et il a choisi d'être représenté par le Pas-de-Calais. Parce que je pense que le Pas-de-Calais, c'est une région que les Anglais connaissent parce qu'ils arrivent par les ports de la Manche. Donc Paine, qui, comme son autre collègue anglais qui a été élu également à la Convention, ne parlait pas le français, Joseph Priestley, qui était un chercheur très connu, tous les deux ont été élus. Mais si Priestley a refusé de venir en France, puisqu'il a dit « ça sert à rien, je ne parle pas le français », Paine, lui, a assisté pratiquement à toutes les séances pendant la période où il a été en France.
Néanmoins, il n'était pas capable véritablement de haranguer ses collègues. Il écrivait ses discours, il les faisait lire par quelqu'un d'autre.
Oui. La barrière de la langue était difficile pour ces deux élus.
Mais Thomas Paine était un personnage considérable. Au moment du bicentenaire, on avait installé une plaque commémorative au 10 rue de l'Odéon, où il avait séjourné. C'est une autre façon de saluer rétrospectivement ce Britannique, également américain en fait,
oui,
aussi,
oui.
qui est venu appuyer notre Révolution française.
Oui, rue de l'Odéon. Il y a eu aussi Shakespeare and Company au début, qui était installée là, la fameuse librairie qui est maintenant sur les quais. Elle était aussi rue de l'Odéon.
Sylvia Beach.
Oui.
Oui, elle fonde sa librairie juste après la Première Guerre mondiale.
C'est ça.
Et elle a été très, très importante puisqu'elle a accueilli beaucoup d'écrivains
oui,
importants, Beckett par exemple, et d'autres.
Oui, oui. Elle a aussi édité James Joyce.
Ce n'est pas un mauvais palmarès. Mais restons un instant dans cette période de la Révolution, car évidemment, à mesure que la terreur arrive, les Britanniques sont moins favorables. Et puis, au bout d'un moment, il éclate la guerre en février 1793. À telle enseigne qu'il devient plus difficile pour eux de séjourner à Paris et en France.
Ah, mais oui, ils sont même arrêtés systématiquement. Alors, il y a quelques personnes qui échappent à la règle. Ce sont ceux qui sont installés en France avant 1789, les personnes de plus de 60 ans, mais également les manufacturiers qui sont là souvent depuis la fin du XVIIIe siècle et qui produisent pour la France en quelque sorte et qui participent au développement industriel de la France. Donc ceux-là ne sont pas arrêtés. Les autres sont arrêtés de manière systématique et ils sont internés. Ils ont souvent dit qu'ils étaient dans des prisons sans barreaux. Ils étaient installés dans des villes, notamment comme à Verdun, où ils vivaient en bonne compagnie. Les gens qui avaient une fortune employaient d'autres Anglais pour les servir. Et il y avait parmi ces internés ou cantonnés dans la ville de Verdun, il y avait notamment Lord Elgin, que le fameux Lord Elgin des collègues qui avait été ambassadeur à Constantinople
et qui,
avait aussi volé beaucoup de choses au Parthénon.
Les frises du Parthénon.
Oui, il était sur le retour, on l'a arrêté et il est resté plusieurs années à Verdun.
Certains Britanniques sont d'ailleurs emprisonnés de façon plus rude, une poignée d'entre eux est guillotinée.
Ah oui, 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 il y a eu quelques personnes guillotinées, quelques personnes fusillées, des hommes et des femmes, parfois même des religieuses. Il y avait des religieuses, des congrégations de religieuses en France. Certaines ont été arrêtées, certaines ont été, même assez âgées, ont été guillotinées.
On peut dire que c'est dans cette situation que s'enracine l'œuvre d'un auteur qui a été traduit en français et qui a beaucoup compté dans l'hostilité d'ailleurs des deux pays, c'est la baronne Orczy. Avec The Scarlet Pimpernel, le mouron rouge, le mouron rouge. Vous savez, c'est cet aristocrate britannique qui vient arracher aux griffes des épouvantables conventionnels, les griffes sanglantes de braves aristocrates français qui cherchent à s'échapper. C'est extrêmement hostile à la Révolution française, presque autant que Charles Dickens dans A Tale of Two Cities.
C'est le même groupe que Burke, en quelque sorte. Hein. C'est les gens qui sont vraiment hostiles à la Révolution.
Il faut que nous avancions parce qu'il y a le temps du consulat et de l'Empire
où après un bref moment d'entente, la paix d'Amiens, les deux pays sont en guerre et cela a des conséquences, en particulier parce que les Anglais deviennent des otages de l'ogre corse, comme il est défini de l'autre côté de la Manche.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est la période de la paix d'Amiens, parce qu'elle est très très courte. Elle va de mars 1902 à mai 1803. Et pendant cette très très courte période, les Anglais qui avaient été privés de France se précipitent pour traverser la Manche et revenir à Paris.
Comme on les comprend.
Ils voulaient absolument être là, mais ils sont rapidement de nouveau pris au piège, parce que on n'en veut plus. À partir de 1803, les portes se ferment et on décrète que les Anglais ne sont plus bien accueillis en France.
C'est ce qui se passera aussi à l'époque de Vichy, d'ailleurs, où bon nombre d'Anglais se trouveront en quelque sorte pris au piège, là encore.
Oui, oui, oui. Les hommes et les femmes en particulier, pendant cette période, ont été enfermées à Vittel et à Besançon dans des conditions qui ont été décrites par un certain nombre de mémoires de femmes anglaises de manière très, très difficile, dans le froid, sans vraiment de nourriture, sans eau pour se laver. Et souvent, c'était des femmes qui n'étaient pas du tout habituées à des conditions de vie difficiles.
Vous évoquiez Diana Cooper-Richey il y a un instant, les industriels qui ont continué d'être bien reçus au long de la Révolution française pour beaucoup d'entre eux. C'est un élément sur lequel on ne peut qu'insister, c'est-à-dire le développement de l'industrie textile, de l'industrie lourde et à mesure qu'avance le 19e siècle, des chemins de fer. On peut dire que les Anglais sont venus au secours de l'industrie française.
D'une certaine façon, oui, on peut dire que les Anglais ont contribué dans un certain nombre de secteurs industriels à la modernisation de ces secteurs. Alors, en ce qui concerne l'industrie textile, ils ont travaillé à la fois le coton, le lin, le jute. Certains étaient même spécialistes du tulle, qui était vraiment un travail de très très précis, puisque ce tulle, souvent, il était rebrodé. Et donc, ces industriels sont installés un petit peu partout. Ces industriels du textile qui sont anglais sont installés un peu partout. Ils sont installés en Picardie, mais ils sont installés aussi près des ports de la Manche, dans l'est de la France. Et il y a même des endroits, comme près de Rouen, où il y a des entreprises qui ont tellement d'ouvriers anglais qu'ils construisent des cités, qu'on appelle des cités anglaises. Un petit peu comme les corons du Nord pour les mineurs. Là, il y a des cités pour anglais.
Comment réagissent les ouvriers français? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de concurrence et d'anglophobie du même coup qui peut naître?
Alors, ça a été particulièrement vrai à Grand-Combe, dans le Gard, chez les mineurs, parce qu'on a fait venir des mineurs du nord de l'Angleterre. Et ces mineurs du nord de l'Angleterre avaient des cadences beaucoup plus rapides. Et ils travaillaient beaucoup mieux que les mineurs du Gard. Et donc ça a beaucoup joué contre eux. Et dans d'autres endroits, on a parfois même raccompagné les ouvriers anglais jusqu'au bateau, parce qu'ils faisaient concurrence. Et ils étaient mieux payés aussi, et souvent mieux installés que les ouvriers français.
Donc cela concerne l'industrie textile, comme vous le dites aussi, l'industrie lourde.
Oui, l'industrie lourde, les forges et les fonderies. Par exemple, dans la Nièvre, il y a un maître de forge qui s'appelait Georges Dufaux, qui appartenait à la première génération des élèves de l'école polytechnique en France. Et lui, il a fait venir directement des ouvriers d'Angleterre. Dans certains cas, comme chez les Devindel, on allait les chercher, les choisir en Angleterre. Un peu comme on a fait plus tard en France, quand on allait au Maroc, choisir sur place les ouvriers que l'on voulait faire travailler dans les mines. Donc là, ils ont fait venir des ouvriers après les avoir choisis en Angleterre.
Vindel, Schneider, le monde de la sidérurgie.
Oui. Il y a aussi un domaine qui est important, c'est celui de la construction navale. Ils ont souvent construit des moteurs à vapeur pour les bateaux qui étaient beaucoup en avance, très rapides, très performants.
Et puis il y a les chemins de fer, bien sûr, où les Anglais également sont en avance sur les Français.
Là aussi,
En entraînant forcément des sentiments mêlés. Admiration, oui. Distance,
oui.
Critique,
mais
caricature.
Un certain nombre de progrès, parce que par exemple sur la ligne Paris-Rouen, il y avait des hôpitaux assez tôt pour les ouvriers, alors qu'il n'y en avait pas sur les lignes qui étaient construites par la suite ou même en même temps. Et il y avait même, ça c'est intéressant, en 1844-45, il y a même eu un journal en anglais publié à Paris pour les ouvriers du chemin de fer anglais. Ça s'appelait British and Continental Railway Reporter. Et c'était spécifiquement pour ces ouvriers anglais du chemin de fer.
Alors il y a l'avenue des ouvriers, puis il commence d'y avoir l'avenue des touristes. En réalité, même s'il existe des mémoires d'un touriste de Stendhal, le mot tourisme vient de la Grande-Bretagne. Et ce sont les Anglais qui inventent en particulier les agences de voyage comme Cook. Et il y a un livre qui a été un grand succès, c'est Le voyage avec un âne dans les Cévennes de Robert Louis Stevenson. C'est un livre de 1879 dont je vais vous faire entendre Diana Cooper-Richer, un extrait lu par Matthew Jocelyn, juste la petite pointe d'accent anglais qui convient, dans Le Pays d'ici sur France Culture, le 8 août 1994.
Tandis que je louvoyais ainsi désespérément à travers la tourbière, les enfants et le bétail commencèrent à se disperser. Et il ne resta bientôt plus que deux fillettes auxquelles demander ma route. En général, les paysans étaient peu enclins à renseigner quelqu'un qui voyageait à pied. Un vieux diable s'est tout simplement retiré dans sa maison et a barricadé sa porte à mon approche. Et j'ai eu beau m'épuiser à frapper et à appeler, il a fait la sourde oreille. Un autre, m'ayant indiqué une direction que je n'ai absolument pas comprise, comme je m'en rendis compte par la suite, m'a regardé avec satisfaction prendre la mauvaise route et n'a pas fait un seul geste. Il s'en fichait comme de sa première chemise si j'errais toute la nuit dans les collines. Quant à ces deux gamines, c'était une paire de coquines sournoises et insolentes qui ne pensaient qu'à manigancer quelques vilains tours. Lorsque je leur dis que je m'étais perdu, l'une des deux me tira la langue pour se moquer de moi, et de leur part, je n'eus que la suggestion de suivre l'une de leurs vaches, ce qui, vu que l'animal continuait tranquillement à paître, ne m'était vraiment d'aucune utilité.
Alors là, il y a une vraie tension avec les visiteurs. Ce n'est pas le cas partout, loin de là, n'est-ce pas?
Le voyage est quelque chose de très très important pour les Anglais. Les Anglais sont des voyageurs, ils voyagent partout. Et à la fin du XVIIIe siècle, leur spécialité, c'est ce qu'on appelle le Grand Tour. Le Grand Tour, ça commence par la France généralement, mais souvent ça va aussi vers les sites antiques de l'Italie, de la Grèce. Parfois, les Anglais vont aussi dans la vallée du Rhin. Donc ce Grand Tour, c'est quelque chose d'aristocratique. Pour les jeunes aristocrates, c'est souvent un voyage d'initiation, s'initier à la culture ancienne.
Mais pas avec un âne, pas avec un âne.
Pas forcément avec un âne, mais il y a ensuite des originaux qui vont faire toutes sortes de voyages, comme Stevenson qui fait son voyage avec un âne. Et il fait aussi, si je me souviens bien, un voyage en canoë. Et puis il y a également des gens qui vont même voyager à travers la France avec une voiture à chien. Et puis vous avez ensuite non plus les originaux, mais les gens ordinaire qui commence à voyager. Et ça commence avec Thomas Cook. Ça commence dans les années 1850. Et le grand flux de voyageurs vers la France, c'est pour la première exposition universelle qui se tient à Paris en 1855. Et là, Thomas Cook fait venir 20 000 personnes.
Il reste que le poids de l'image de l'anglais excentrique et reste fort du côté des stéréotypes. Et après tout, c'est bien ce qu'exprime Jules Verne dans Le Tour du Monde en 80 jours avec Phileas Fogg.
Oui, c'est ça. Et souvent, moi j'ai par exemple travaillé sur des almanachs populaires qui s'appellent les messagers boiteux. Et dans les messagers boiteux, on voit bien que ce qui fait rire, on essaye de faire rire avec le nécessaire de voyage des Anglais. Et on le décrit comme étant parfaitement ridicule. Ce nécessaire de voyage, c'est un petit peu comme une caverne d'Ali Baba. Il y a un peu de tout.
Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Des objets. Il y a du vinaigre pour se parfumer. Il y a des cravates, il y a des parapluies. Alors on décrit dans le détail les parapluies, des chaussures pour la pluie. Il y a toutes sortes de choses et ça fait beaucoup rire les lecteurs. Encore faut-il qu'ils soient de vrais lecteurs, mais ceux à qui on lit le messager boiteux, ça leur donne une image de l'anglais qui est très très originale, très différent du français en tout cas.
Donc ambivalence du regard sur les Anglais qui s'installent ou qu'ils passent. Ceux que vous évoquez, ce sont ceux qui passent. Mais il y a aussi ceux qui choisissent dès ce moment-là de s'installer en France.
Ah oui. Alors ça commence aussi très très tôt finalement. Parce que Lord Brougham, qui est un des grands pourfendeurs de l'esclavage au Parlement anglais, vient parce que sa fille est phtisique. Et donc, il vient en France pour la soigner. Et il descend vers le Midi et il découvre le petit village complètement reculé de Cannes en 1834. Et c'est lui qui lance la mode de la Riviera. Et il finit par construire une villa à Cannes. Et de fil en aiguille, cette Riviera va se développer à partir de cette date-là.
C'est pour la fierté de quelqu'un de connu dans la politique française, Jean-Claude Gaudin, qui a été ensuite maire de Marseille et qui en 1994, c'est une archive de mai 94, dans l'émission La France retrouvée de Roland Dordain sur France Inter, Jean-Claude Gaudin qui s'exprime de la sorte à propos de l'arrivée des Anglais, notamment à Nice et sur la Riviera, avec la promenade des Anglais.
Vous savez, nous en Provence et sur la Côte d'Azur, on n'a rien contre les Anglais. Parce que la guerre de Cent Ans, ça s'est déroulé au nord. Et c'était pas chez nous. Et par conséquent, on n'a pas ce ressentiment que des générations et des générations ont gardé contre l'Angleterre. En réalité, même les Anglais, je dirais que finalement, on les aime bien. Depuis le siècle dernier, ils avaient adopté Nice et la Côte d'Azur, comme ils ont adopté également le Pays Basque avec Biarritz. Et qu'à l'époque de la reine Victoria, qu'à l'époque d'Édouard VII, les Anglais venaient. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on appelle à Nice la promenade des Anglais. Et par conséquent, ces Anglais ont apporté par leur argent un essor économique dont généralement, sur la Côte d'Azur, on se souvient encore. Et par conséquent, bon, jadis, quand ils venaient, il leur fallait sans doute plusieurs jours pour arriver sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, avec le tunnel, ils gagneront plus vite la France. Et avec les avions, ils arriveront ensuite plus vite chez nous. Eh bien, qu'ils viennent et qu'ils apportent toujours leurs livres sterling. Et par conséquent, c'est une bonne chose.
Alors, vous parlez de l'avion, mais il y a maintenant le train qui va faire la Victoria Station direct Marseille. Quelles peuvent être les perspectives que vous en attendez?
D'abord, si vous voulez, on parlera, M. Pasqua et moi, en anglais, parce que nous sommes les seuls à nous comprendre, généralement. Que les Anglais viennent, qu'ils nous aident sur le plan de l'économie, c'est une excellente chose. Vive l'amitié franco Grande-Bretagne, anglaise, appelez ça comme vous voulez.
Appelez ça comme vous voulez, Diana Cooper-Richet.
Alors, Jean-Claude Gaudin parle du sud de la France, de Nice, de Biarritz. Ce sont en effet des stations qui ont été fréquentées par les Anglais, inventées par les Anglais. Il parle notamment de la promenade des Anglais. Et cette promenade des Anglais, elle n'existait pas, bien sûr, et ce sont des Anglais de Nice qui se sont cotisés pour que l'endroit soit déblayé et qu'au moins ils puissent marcher. Parce que, comme vous le savez sans doute, la marche à pied est quelque chose de très important pour être bien, pour être en forme pour les Anglais.
Ce n'est pas un cliché, ça, c'est vrai.
Non, c'est vrai. Alors, autour de Nice et de Biarritz, se sont développées donc de petites colonies anglaises avec tout, c'est-à-dire avec des églises, avec des cimetières. À Nice, par exemple, il y a un cimetière qui s'appelle le cimetière de Cocade, qui est au-dessus de Nice, qui domine la baie, et dans lequel il y a un carré anglais très important. Et ce carré anglais est très bien entretenu encore aujourd'hui, et ça fait partie donc de ces installations, de ces des choses qui appartiennent un petit peu à la communauté britannique dans les endroits où les Britanniques s'installent. C'est pas seulement vrai du sud de la France, on le retrouve à Dinard, on le retrouve à Pau, on le retrouve dans d'autres endroits.
Est-ce que c'est une continuité, vous le pensez, du comportement, des manières d'être des Anglais chez nous, conserver un entre-soi plutôt que de se mêler à la population, ou est-ce que les choses ont changé?
Alors, je crois que on retrouverait la même difficulté qui est souvent la barrière de la langue. Encore aujourd'hui, on dit que les Anglais ont du mal à s'intégrer parce qu'ils ne parlent pas très bien le français et parce que dans le fond, puisqu'ils sont tous ensemble, ils échangent ensemble en anglais et n'ont pas besoin vraiment de parler le français très très bien.
Est-ce que c'est vrai dans le Dordonshire, par exemple, comme on dit avec un sourire, cette Dordogne où il y a aujourd'hui beaucoup d'Anglais?
Oui, c'est vrai. Mais je pense que ça changera avec les générations à venir. Parce que les générations à venir vont à l'école. C'est-à-dire que les jeunes vont à l'école. C'est des classes qui se font en français. Et donc, ils vont forcément s'intégrer progressivement. Et les choses changeront. Mais pour la génération des parents, et a fortiori pour la génération des grands-parents, la situation était différente.
Il y a un autre aspect qu'il faut évoquer à propos du 19e siècle, c'est toute la littérature, les modes de vie, le regard sur la nature, effectivement, les paysages à l'anglaise, et puis le dandysme, les comportements des auteurs romantiques à l'égard de la Grande-Bretagne et de sa culture est intéressant à considérer.
Alors, on peut peut-être commencer par le paysage. Oui. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une très très grande différence entre la conception britannique du paysage et la conception française du paysage.
Le jardin à l'anglaise opposé au jardin voilà. à la française, c'est ça ?
C'est ça, c'est très très différent. En fait, pour les Anglais, le jardin c'est une part du paysage, c'est simplement une partie de la nature. Et donc, pas besoin de la domestiquer, pas besoin de tailler des buissons avec des formes. On laisse au contraire la nature s'installer dans un jardin. Mais il y a un certain ordre, il y a certaines règles. Ce qui est intéressant, c'est que le paysage à l'anglaise est devenu en quelque sorte l'idéal type de l'espace vert romantique. Et donc, comme on est dans la période romantique, eh bien, on se réfère plutôt au jardin anglais.
On va d'ailleurs approuver Blaikie lorsqu'il vient dessiner les jardins de Bagatelle en attendant le parc Monceau, qui témoigne encore aujourd'hui de cette oui. vision, une façon d'aménager le paysage au profit des jardins à l'anglaise.
Oui, et avec les jardins vont aussi l'art de l'aquarelle. Les Anglais ont introduit en quelque sorte l'aquarelle avec quelques grands aquarellistes comme Bonington et aussi comme Frederick Nash, qui donnent leur lettre de noblesse à l'aquarelle parce que leur aquarelle est à la fois naturelle, assez forte dans la manière de s'exprimer, mais avec des couleurs très sensibles. On peut aussi, avec cette période, parler de la mode vestimentaire, oui. qui se rattache à la période romantique.
C'est le dandysme,
c'est
de Brummel.
C'est le dandysme. Alors, les Français se disent avoir inventé le dandysme. Les Anglais disent la même chose. C'est sans doute une production un peu des deux. En tout cas, le poète qui représente le mieux le dandysme à cette époque et le romantisme, c'est Byron.
Célèbre pour sa chemise blanche ouverte.
Voilà.
Concordance des temps peut-être, oui. chacun remplira le vide.
Voilà, exactement. Et donc c'est un phénomène qui est exclusivement masculin. Des rois de dandy, il y en a dans la littérature française. Par exemple, Henri de Marsay, dans Illusion perdue, est considéré comme le roi des dandys.
Balzac. Mais,
oui. Dans le même temps, sous le Second Empire, ça continue. Et en France, on va appeler les dandys les gandins et parfois on les appellera des lions. Il y a un roi des dandys anglais, Beau Brummel. C'est pas son prénom, mais on appelle le Beau parce que il est très beau. Il est en disgrâce en Angleterre, donc il décide de venir en France en 1816. Il vient à Paris, ensuite il va à Calais, à Caen, et puis finalement il meurt à Caen, complètement oublié, complètement appauvri.
C'est triste.
Mais il a lancé la mode de la veste vert fumé et de la belle chemise blanche et d'une cravate très importante.
Mode que nous allons faire relancer. C'est d'ailleurs un peu plus tard le moment où on célèbre le chic anglais, la mode anglaise. Le premier tenant de la haute couture masculin, c'est Charles Frederick Worth, qui a vraiment fondé la haute couture, non ?
Ah oui. Worth est venu en France parce que il venait d'une famille, son père avait une profession libérale, de mon souvenir, et puis ils se sont appauvris, ils ont eu un revers de fortune, et donc il est venu en France, et il a travaillé dans des magasins de tissus de luxe, et ensuite il a travaillé dans des ateliers, à un moment où en France, il n'existait pas de couturier, mais seulement des couturières. Et donc, il a commencé à lancer son atelier. Il s'est marié avec une Française qu'il avait connue dans une boutique. Il a eu un grand succès parce qu'il faisait à la fois de la haute couture pour Madame Metternich, par exemple, pour les princesses de Russie, pour beaucoup de femmes en France, pour Eugénie, notamment.
Eugénie
de
Montereau,
l'impératrice. Mais il avait aussi de la semi-façon. C'est-à-dire que c'était des modèles que l'on pouvait adapter à la personne, changer la couleur, changer le tissu.
Ça, c'est très moderne. Il a inventé, en somme, la demi-mesure. Un mot de l'influence sur les écrivains, en particulier la grande mode de Walter Scott, l'auteur écossais, la Scottmania, et en particulier les romans historiques. Et chacun, parmi les auteurs français, va s'atteler à son roman historique, Cinq-Mars, pour Alfred de Vigny, Notre-Dame de Paris, pour Victor Hugo, le règne de Charles IX, pour Mérimée, etc.
Oui, alors la Scottmania était assez importante. L'anecdote est assez significative, puisque quand Scott est venu à Paris avec sa fille en 1826, il a visité Paris, il est allé aux Halles, et il y avait une délégation de femmes des Halles qui lui ont offert un bouquet pour le complimenter sur son œuvre. Donc c'est assez intéressant de voir que même dans les classes populaires, ces romans étaient connus à cette époque. entre 1820 et 1851, 45 000 exemplaires de ses œuvres complètes ont été vendus en France.
Yvan Noé, Quentin Durvar.
Voilà. Quentin Durvar a eu un succès particulier, surtout en France, parce que c'est l'histoire d'un jeune Écossais, d'un aristocrate écossais qui se met au service de Louis XI.
À partir de ce 19e siècle, à cheval sur le 20e, les Anglais qui résident chez nous, puisque c'est le sujet de notre émission ce matin, les Anglais parmi nous introduisent diverses habitudes, par exemple celle d'une sociabilité, les clubs, le sport aussi. Écoutez donc cette interview significative d'un Anglais qui est installé à Aimé, en Dordogne. Il va nous parler du cricket et des pubs. C'est une archive de la France retrouvée, d'une émission de France Inter, le 7 mai 1994.
Ça commence dimanche prochain. On va jouer à Aimé. Le premier match, c'est contre une équipe mélangée des équipes du Sud-Ouest. Mais la plupart, c'est des équipes anglaises quand même.
Et alors, pourquoi vous avez reproduit donc comme ça le cricket ici? C'est important, ça fait partie de votre culture, c'était
oui,
évident.
Pour beaucoup de gens, ça fait partie de leur culture anglaise. Et se trouver en France, il y avait pas mal d'Anglais dans la région et ils voulaient tous... c'est une bonne idée de refaire ça.
Et la tradition anglaise toujours veut que tout le monde se retrouve après l'effort autour d'une bière. Et là, je les ai rencontrés, donc j'étais avec eux au pub local. En fait, c'était plutôt un petit bistrot de village quand même. Et j'ai cherché à savoir ce qui les avait amenés à s'installer ici à Aimé. Réponse en anglais, tendez l'oreille, sous forme de boutade, mais empreinte de vérité.
French cooking is not much different to English cooking, but the wine is cheap. French girls are not much different, they're no more beautiful than English girls, but the wine's cheap. French weather is not much different to English weather, but the wine is cheap. And that's why we come to France.
Oui, alors peut-être deux mots. Ils disent que la gastronomie française n'est pas tellement meilleure que la gastronomie anglaise.
Oh,
mais
ça,
le vin
c'est faux.
Est moins cher.
Goûter.
Le vin est moins cher. Les filles françaises ne sont pas tellement plus belles que les anglaises,
ah bon.
Mais le vin est moins cher. Et le temps français n'est pas tellement plus ensoleillé qu'en Angleterre, mais le vin est moins cher.
Du côté d'une certaine ironie, on n'échappe pas décidément, Diana Cooper-Richet, au monde des stéréotypes.
Beaucoup de stéréotypes dans cet entretien avec un Anglais de Aimé. Mais son intervention est intéressante parce que elle évoque les sports, notamment le cricket. Les Anglais, quand ils sont installés en France, amènent avec eux tous leurs sports. C'est-à-dire que très rapidement, on trouve des courts de tennis, on trouve un terrain pour le cricket, on trouve quelques trous pour le golf.
Et puis il y a la balle au pied, ce qu'on peut appeler le football éventuellement.
Oui, le football, mais aussi les champs de courses. Hein, les courses ont été introduites par les Anglais. Même d'ailleurs en Algérie, les champs de courses ont été introduits par les Anglais. Alors, le football, c'est très intéressant, de même que les clubs. La notion de club, elle avait été connue par les émigrés français aristocratiques qui sont partis en Angleterre au moment de la Révolution. Et donc, ils connaissaient les clubs. Et le premier club en France, c'est un club qui est né, qui s'appelle le Cercle de l'Union, à Paris en 1824.
Oui, on dit cercle en France au début plutôt que club.
Oui, on dit cercle plutôt. Mais après, très rapidement, 1834, est fondé le Jockey Club, qui est vraiment à l'image et porte le même nom que le même club en Angleterre. Donc il est fondé par un certain nombre d'aristocrates qui ne sont pas forcément tous anglais d'ailleurs. Eugène Sue a même appartenu de manière éphémère au Jockey Club.
On peut y être sans être aristocrate.
On peut y être sans être
aristocrate.
Exceptionnel. Oui. Alors il y a un écrivain français qui n'est pas très connu mais qui s'intéressait beaucoup au Jockey Club. Charles Le Boigne, qui a dit « Le Jockey Club est une république quant à la forme et une monarchie quant aux idées ». Voilà quelle était un petit peu l'ambiance qui pouvait régner dans ce Jockey Club.
D'ailleurs, c'est le Jockey Club qui lance son prix, le prix du Jockey Club, sur l'hippodrome de Chantilly, qui
oui.
se veut l'équivalent du derby anglais, encore
Absolument.
Une influence.
Et il y a une petite communauté aussi d'anglais qui a habité à Chantilly à cause des courses. Le football, peut-être un mot sur le football, c'est quand même très important, parce que le premier club de football en France, c'est 1870 au Havre, c'est le Havre Athletic Club, et la raison pour laquelle ce club a été fondé, c'est qu'il y avait beaucoup d'anciens d'Oxford et de Cambridge qui travaillaient dans le négoce, dans cette partie de la France, donc ils ont fondé un club pour la balle au pied. Il y en a eu d'autres, plus ou moins éphémères, qui ont existé en France. Mais ce qui est intéressant, c'est que la contagion s'est faite avec le monde ouvrier. Les patrons français, notamment des houillères, ont pensé que c'était une manière d'assagir et de temporiser un petit peu leurs ouvriers. Et ils ont fondé des clubs de football autour des mines dès 1900. Donc, le football s'installe vraiment en France à partir de là.
Est-ce que temporiser n'est pas un faux ami, Diana Cooper-Richet ?
Si, c'est un faux ami, parce que quand on est temperate en anglais, ça veut dire qu'on se détache de l'alcool, qu'on est en désintoxication en quelque sorte. Et en fait, les patrons français cherchaient à détacher leurs ouvriers de l'estaminet, qu'ils fréquentaient trop au goût des patrons.
C'est un effort que l'on trouve aussi dans... parmi les classes dirigeantes de la bourgeoisie française au même moment. Alors je vous propose d'avancer dans le temps et de rejoindre le XXe siècle avec une date essentielle qui vient changer forcément le regard des Français sur les Anglais qui habitent chez eux après des moments de méfiance considérables, l'époque de Fashoda, l'opposition en Afrique entre les troupes anglaises et françaises. Après la guerre des Boers en Afrique du Sud, nous en parlions la semaine dernière dans une émission sur ce pays qui a vu la France en gros sympathiser pour les Boers, les Boers, les Boers contre les Anglais, arrive l'entente cordiale en 1904 qui vient presque aussitôt changer le regard mutuel des deux peuples les uns sur les autres et en particulier des Français sur les Anglais qui résident dans l'Hexagone.
Moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait deux types de regards par rapport à l'Angleterre et aux Anglais en France. Dans l'élite cultivée cosmopolite, on est beaucoup plus indulgent. Dans les classes populaires, on est plus nationaliste. On regarde les gens différents qui viennent d'un autre pays de manière plus sévère, de manière moins indulgente. Et donc, parmi cette élite cultivée et cosmopolite, il y avait depuis longtemps de l'anglophilie, c'est-à-dire qu'on admire les Anglais pour un certain nombre de choses. On a vu l'art du paysage, la manière de s'habiller et un certain nombre de choses comme ça, voire pour certains, comme les libéraux sous la Restauration, pour la monarchie constitutionnelle. Mais dès 1830, dans les années 1830, on commence déjà à parler d'une entente cordiale. C'est un lord anglais à la Chambre des communes, je crois que c'est en 1832, qui parle de cordial understanding. Il pense que cette entente est peut-être possible et vient avec cette cordial understanding un projet qui est lancé par un ingénieur des mines français de tunnel. Et ce tunnel ne verra le jour que bien longtemps après. Mais c'est toute cette attitude, ce mouvement qui va finalement conduire progressivement à la signature de l'entente cordiale en 1904, avec les efforts de Cambon et de Delcassé.
Paul Cambon, c'est notre ambassadeur à Londres à l'époque, Théophile Delcassé, le ministre des Affaires étrangères, qui avec Lord Lansdowne, son homologue britannique, vient d'abord conclure un accord diplomatique. Mais cet accord diplomatique, assez vite, se diffuse et fait évoluer l'attitude des Français. Je pense en particulier à l'accueil excellent qui est fait au roi Édouard VII, à ce moment-là, qui vient, oui, l'ancien prince de Galles, très, très populaire,
oui, très
à
populaire,
la fois par sa francophilie et par, comment dire, ces frasques aussi qui sont considérées avec indulgence.
Oui, il vient depuis longtemps en France. Il est venu avec sa mère, il fréquentait Biarritz, il vient en visite officielle en 1903, il va beaucoup au théâtre. Et c'est un grand admirateur des actrices françaises.
Oui, le théâtre. Il y a aujourd'hui un théâtre qui s'appelle Théâtre Édouard VII.
Absolument.
Qui aimait beaucoup Sacha Guitry, oui, et que dirige aujourd'hui Bernard Murat avec,
oui,
beaucoup d'efficacité.
Oui. Et donc, tout ça joue. Hein, 1903, c'est l'année d'avant 1904. Et donc, tout ceci va jouer en faveur de l'entente cordiale.
Et ainsi se prépare la rencontre des deux nations pendant la Première Guerre mondiale. À la fois la Première Guerre mondiale et la Seconde. C'est,
oui,
en 1939 que Léo Marjan chante, sur des paroles de Jean Nohain, chante « Bonjour Tommy ». On retrouve 20 ans après les Tommy qu'on a aimés, les Tommy qui se sont battus sur la Somme, les frères de combat des Français pendant la Grande Guerre.
Bonjour, bonjour Tommy, tu reviens donc en France. Nous voici réunis après 20 ans d'absence. En te voyant ici, tu sais ce que je pense. Toute la France corrige bonjour Tommy et bonne chance. Je me souviens encore sur les grands boulevards à Paris, lorsque tu passais, tu sifflotais le petit Ferrari et tu tournais la tête à toutes nos midinettes pour pouvoir te dire mon petit homme de Tommy, tu me plais. Toutes les Parisiennes avaient appris trois mots d'anglais et toutes elles savaient dire I love you darling my dear. Bonjour, bonjour Tommy, tu reviens donc en France. Nous voici réunis après 20 ans d'absence. Tu vas revoir ici de vieilles connaissances. Toute la France crie bonjour Tommy et bonne chance. Tu portes toujours ton uniforme bien sanglé et toujours ton stick, c'est vraiment chic, le chic anglais. Ta main est toujours prête à donner des cigarettes. Qu'est-ce qu'on dit là-bas tout autour de Piccadilly? Comment va le roi et comment va ta petite Daisy? Nous voudrions leur dire merci de t'avoir laissé venir. Bonjour, bonjour Tommy, reviens donc en France, nous voici réunis. Après 20 ans d'absence, tu vas revoir ici de vieilles connaissances. Toute la France crie bonjour Tommy et bonne chance.
C'était donc Léo Marjan, 1939. Elle chante dans un pays où il y a des cimetières nombreux qui portent parmi leur gazon la tombe de tous ceux qui sont morts dans la Grande Guerre.
Dans la mémoire des Britanniques, ce qui compte pour la Première Guerre mondiale, c'est la bataille de la Somme, le 1er juillet 1917. Pendant cette période et autour de cet endroit, 200 000 soldats britanniques sont morts. Le 1er juillet, plusieurs dizaines de milliers de soldats anglais sont morts. Et on a très vite, presque immédiatement, commencé à penser à la question des cimetières et installer des cimetières pour ces morts. Et donc la région du nord de la France est parsemée de cimetières britanniques.
Quand nous parlons des Anglais parmi nous, ce sont aussi les Anglais disparus dans ce combat.
Absolument, et ces cimetières sont gérés par une administration anglaise et ils sont tous sur le même modèle. Les tombes sont sur le même modèle, la stèle centrale est sur le même modèle. Ils sont extrêmement bien entretenus et il y en a beaucoup. Ils sont très impressionnants lorsqu'on les visite, parce qu'il y en a beaucoup.
Ce sont des morceaux du territoire français qui sont de fait britanniques.
Absolument. Alors, ce qui a aussi beaucoup marqué les Anglais, c'est la mort du fils de Kipling. Et Kipling a écrit, il avait un fils unique, il est mort à la guerre, et il l'a cherché pendant des années. Parce que tous les morts étaient ensevelis un peu n'importe comment. On ne retrouvait pas forcément un nom et un mort avec une médaille, avec le nom inscrit. Et donc, il a fait un poème très très beau, que tout le monde connaît. Et il a recherché son fils pendant des années et des années.
Après 1945, forcément, la manière dont les Britanniques ont résisté à Hitler marque de façon très positive le regard que les Français jettent sur eux. On a oublié toutes les incertitudes des comportements des Anglais pendant les années 30, qui ont parfois zigzagué entre désir de résistance au nazisme et la tentation de composer avec lui.
Oui.
Après 1945, tout ça est assez largement dépassé. Ça n'empêche pas qu'il y a des stéréotypes qui perdurent, bien sûr. Le succès des carnets du major Thompson de Pierre Daninos en est un signe. Je pense aussi à cette pièce d'Eugène Ionesco, vous savez, son antipièce qui s'appelle La cantatrice chauve, qui est jouée depuis des décennies rue de la Huchette, dans le théâtre de la Huchette, et où on peut voir cette description du décor intérieur bourgeois anglais avec des fauteuils anglais, soirée anglaise. Monsieur Smith, anglais, dans son fauteuil et ses pantoufles anglaises, fume sa pipe anglaise et lit un journal anglais près d'un feu anglais. Il a des lunettes anglaises, une petite moustache anglaise, grise. À côté de lui, dans un autre fauteuil anglais, Mrs. Smith, anglaise, répare des chaussettes anglaises. Un long moment de silence anglais. La pendule anglaise frappe 17 coups anglais. Les stéréotypes ont la vie dure, même s'ils sont pris eux-mêmes de façon assez ironique ici.
Oui, et le succès de cette pièce montre que c'est encore visible aujourd'hui.
On trouve aussi ces stéréotypes, par exemple, dans le succès d'Astérix chez les Bretons. Enfin, on pourrait trouver beaucoup de ces clichés qui nourrissent toute une littérature. Le vieux rêve du rapprochement franco-anglais connaît depuis 1945 des va-et-vient avec des moments un peu spasmodiques de sympathie très forte. Je pense à l'intérêt que les Français ont porté à la télévision. Ça fait vendre beaucoup de premiers postes de télévision, récepteurs, le couronnement de la reine Élisabeth et surtout sa visite en 1957 et où elle est accueillie à Paris pour une visite d'État par le président René Coty. Le voyage sur la Seine, sur le debord de Frétigny, moment important, pas seulement pour Paris Match.
Non, c'est pas seulement important pour Paris Match. C'est un moment de liesse populaire, en quelque sorte. Le général de Gaulle se rend, lui, en Angleterre en 1960. Même si les Anglais ont quelques réticences par rapport au général de Gaulle, les médias anglais jugent tous que, sans doute, le général de Gaulle est plus intègre que le reste de la classe politique française. Et ils pensent ça à ce moment-là.
Et puis surtout, c'est De Gaulle, c'est Carlton Gardens. Il n'était pas revenu à Londres depuis juin 1944.
Voilà. Oui. Et à ce moment-là, le rapprochement est de plus en plus facile. Et il se fait d'année en année. Et au moment du centenaire de l'entente cordiale, en 2004, on a une année de célébration. D'abord, la célébration de l'entente cordiale. Ensuite, la célébration en juin 2004 du débarquement. Et là, on a Tony Blair et Elisabeth qui sont là. Et le 14 juillet, on a les troupes anglaises qui défilent sur les Champs-Élysées.
Le Premier ministre Anthony Eden, déjà pour le cinquantenaire en 1954, avait célébré l'amitié. On était juste avant la malheureuse expédition franco-anglaise de Suez. Mais l'évoquer nous entraînerait probablement trop loin. Je voudrais conclure notre conversation sur les Anglais parmi nous avec ce reportage de la Gare du Nord lors du départ de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Alfred Duff Cooper, le 18 décembre 1947. Ce sera aussi une occasion de saluer son épouse.
Son Excellence, Monsieur Duff Cooper, ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, quitte aujourd'hui son ambassade et Paris même. Une foule d'amis est venue l'accompagner, ainsi que Lady Diana Cooper, sur le quai de la Gare du Nord où dans quelques instants va partir la flèche d'or, ramenant vers la capitale britannique l'ambassadeur de Sa Majesté. Il y a un instant à peine, nous nous sommes approchés de Lady Diana Cooper pour lui demander de nous dire quelques mots. Mais avec son charmant sourire et les larmes dans les yeux, ma foi, Lady Diana Cooper nous a dit « Je ne peux absolument pas parler, car si je parle, je pleure ». Nous allons nous approcher maintenant de son Excellence, Monsieur Duff Cooper. Monsieur l'ambassadeur, avant votre départ, sur le quai de la Gare du Nord, pourriez-vous, au micro de la radiodiffusion française, adresser un message qui n'est pas un message d'adieu, mais un message d'au revoir aux auditeurs français?
Avec plaisir. Je quitte aujourd'hui l'ambassade d'Angleterre, mais je ne quitte pas la France parce que je vais passer seulement les fêtes de Noël et du Nouvel An en Angleterre, mais j'espère rentrer bientôt en France et y habiter. C'est mon intention de continuer à travailler pour les bonnes relations entre nos deux pays, d'où dépendent non seulement le bonheur de la France et de l'Angleterre, mais aussi la paix du monde.
Merci, monsieur l'ambassadeur. Et je crois pouvoir vous dire, au nom de tous nos auditeurs français, que c'est un ami que la France accueillera avec plaisir après les fêtes de Noël.
J'ai trouvé cela symbolique, pas seulement parce que c'était l'occasion de saluer Diana Cooper, chère invitée Diana Cooper Richet. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre mère ou votre grand-mère.
Non, non, je n'ai aucun lien avec Lady Diana Duff.
Sauf l'homonymie.
Voilà.
Les années 60, 70, grâce au cinéma, grâce à la musique. Le cinéma, c'est important. Nous avons consacré la dernière édition du festival du film historique de Pessac au cinéma anglais avec beaucoup de succès. C'est le temps aussi du film de Michel Lang, À nous les petites anglaises, de 1976, qui charrie aussi beaucoup de stéréotypes.
Oui.
Mais c'est le temps des Rolling Stones, de la mini-jupe. Parlez-nous de cela pour finir.
Alors, je crois que si on pense aux Rolling Stones, il faut penser à Mick Jagger qui avait l'habitude avec sa famille de venir en France quand il était petit, dans la région d'Amboise. Il s'est beaucoup attaché à cette région et lorsqu'il a eu suffisamment d'argent, il s'est acheté un château près d'Amboise où il est venu très souvent et où il avait l'habitude de faire ses courses au supermarché, de parler avec tout le monde comme un familier de la région. Et on peut aussi citer un autre chanteur anglais, Elton John, qui s'est acheté, lui, une maison, une belle propriété sur les Hauts de Nice, au Mont-Boron.
C'est lui qui a chanté de façon si émouvante au moment de la mort de Diana.
C'est effectivement lui. Alors, les Anglais ont aussi introduit la mode de la mini-jupe, la mode de certains types de maquillage, de vêtements féminins.
Hommage à Laura Ashley, hommage à Mary Grant.
Voilà. Et on voyait souvent arriver Gare du Nord des jeunes filles françaises qui étaient allées soit au pair, soit suivre des cours d'anglais en Angleterre et qui revenaient au grand étonnement de leur famille avec des jupes très courtes. Mmh. Voilà. Ça a beaucoup influencé les Françaises à cette époque-là, la mode anglaise.
Eh bien, ce n'est pas sur la futilité, mais sur des choses importantes, c'est-à-dire la culture des apparences, que nous allons clore notre conversation sur les Anglais parmi nous. Votre ouvrage, Diana Cooper Richet, qui a appuyé cette émission et qui va paraître dans quelques jours chez Fayard, s'intitule « La France anglaise de la Révolution à nos jours ». Je citerai également, nous vous avions reçu il y a quelque temps sur les mineurs, le peuple de la nuit, mines et mineurs en France au 19e et 20e siècle, Perrin 2002. Vous avez écrit un livre sur Galignani, la fameuse librairie fondée au début du 20e siècle. Galignani, l'éditeur, 1999, que vous avez publié chez Galignani même, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et puis avec Michel Rapoport, L'entente cordiale, 100 ans de relations culturelles franco-britanniques, 1904-2004, chez Créafis, une parution de 2006. Vous pourrez, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, retrouver, vous le savez, une bibliographie plus complète sur notre site, que vous fréquentez sûrement souvent, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés, et vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, vous savez que de temps en temps, nous nous préoccupons de redonner une actualité à des auteurs qui nous paraissent quelque peu oubliés ou qui ont reculé dans l'attention publique. Eh bien, nous parlerons d'un personnage considérable en son temps et qu'on ne lit plus guère, c'est Anatole France. Nous parlerons de l'actualité d'Anatole France avec Laurent Theis. Et bien sûr, le fond musical de la Marseillaise interprétée par les Beatles, je vous rappelle que c'était Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée par Jeanne Guérou et Nathalie Lempereur, réalisée par Anne Kobilac, avec Alexandre Dang, familier de cette émission, à la prise de son, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque et Annie Lozana pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine O'Krent pour Affaires étrangères. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do but you can learn how to be you in time.